Je vais vous dire un petit préambule avant le reste du message. Il y a quelque temps, j'avais eu cette pensée de continuer le message du 19 janvier 2025. Tout le monde s'en rappelle, ça c'est sûr. Aujourd'hui, vous savez, c'était les 7 lettres adressées aux églises. Aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin et vous parler des 7 sceaux qui sont parallèles en fait aux 7 lettres et qui nous parlent des cataclysmes à venir. Alors, ce n'est pas un message rigolo, ça c'est sûr. Et pourtant, à travers tout ce fatras, tout ce chaos qui sera vécu, il y a la bénédiction de Dieu pour les croyants. Et pour moi, l'Apocalypse contient ces points essentiels. La vision de Jean pour la fin des temps, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, la dernière chance de venir à Dieu pour les survivants aux cataclysmes annoncés, et la fin d'un monde et le commencement d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Je précise que certaines des images que vous allez voir dans la présentation, eh bien, elles font partie de la tapisserie de l'Apocalypse, exposée, vous le savez tous, dans le château d'Angers, en Maine-et-Loire, département numéro 49. Cette tapisserie a été commandée par le roi René Ier d'Anjou en 1375, c'est vous dire si ça remonte. Elle comporte 6 parties de 23 sur 6 mètres. Et c'est une pièce unique parce qu'elle a bénéficié d'une technique magistrale pour la fabriquer. L'histoire, toujours l'histoire qui me poursuit. Donc, entrons dans le vif du sujet. On a l'habitude de dire que Dieu est amour. 1 Jean 4,8. C'est correct de le dire d'ailleurs, parce que c'est son caractère profond. Est-ce qu'il n'a pas tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique pour nous racheter, pour nous réconcilier, comme il a été dit ce matin? Mais dans le même temps, Dieu est jaloux, Dieu est exclusif. Et surtout, il est le juge suprême, le juge final de toute l'humanité. Alors, ça fait peut-être par 7 un petit peu de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire l'enfer et puis tout ce qui va avec. Mais c'est important de souligner qu'il y aura une séparation pour les impies, une séparation éternelle. Alors nous, dans le monde occidental, on se fait un petit monde de bisounours. On croit des trucs et des machins. C'est plus ou moins, ça tient debout. Mais c'est un peu comme aligner des noix sur un bâton, à mon avis. Les nouvelles philosophies et tout ce qui s'ensuit, ça tient pas longtemps la route face à la parole de l'Éternel. Le Christ, dans Apocalypse 5,5, est le seul qui puisse ouvrir les 7 sceaux. Et Jean pleure parce qu'il n'y a personne qui peut ouvrir les 7 sceaux, sauf Jésus-Christ. Voyons le premier. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Le cavalier blanc, ça a été à tort, identifié au Christ, certains s'appuyant sur Apocalypse 19,11 pour dire ça. Mais on peut opposer l'argument, qu'est-ce que le Christ couronné, immolé, aurait encore besoin de rehausser cette gloire parfaite de l'agneau? La réalité, c'est bien plus glaçant que ça. Satan, vous le savez, aime à se déguiser en ange de lumière. Oh le crapaud! Il aime imiter la sainteté de Jésus. Mais il est bien évidemment incapable de jouer cette partition jusqu'au bout, car rapidement démasqué par quoi donc? Par la parole de Dieu. Alors ce cavalier blanc, il incarne la perfidie satanique qui séduit les humains par sa blancheur, signe de pureté dans la Bible. Que fait-il? Il séduit par des paroles trompeuses assistées par des loups déguisés en bergers. 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Ils préparent le règne de l'Antéchrist avec sa trinité finale, c'est-à-dire Satan, le père du mensonge, le fils de la perdition, l'esprit d'erreur, séduisant les hommes par des miracles mensongers. Jean 8, 44, votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. 2 Thessaloniciens 2, 10 et 11, il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et il tire des flèches meurtrières sur toute la terre. Et déjà aujourd'hui, il décoche ses traits dans l'ombre. De fait, il y a de plus en plus d'idées saugrenues qui surgissent de par le monde. Et la plupart des gens, non seulement y adhèrent, mais en plus, les mettent en pratique. En résumé, Satan agit avec séduction, qui est une arme redoutable entre ses mains. Voyons le deuxième sceau. Le cavalier roux. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Un autre cheval sortit, il était rouge feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent. Une grande épée lui fut donnée. Alors, lors de l'ouverture du premier sceau, la terre jouissait d'une paix relative. Par-ci, par-là, des bruits de bottes, mais pas une déstabilisation totale. Mais avec le cavalier roux, changement de musique. La couleur de son cheval dit tout. Le rouge du sang est de la guerre, désormais à outrance. Les hommes vont s'entretuer, soit individuellement, soit collectivement. On entrevoit ce qui va se passer avec les événements actuels. En effet, savez-vous que le rapport du CICR, en ce début 2026, relate 130 guerres et conflits armés. C'est magnifique. Le sang coule à flot. L'instinct de l'homme va se déchaîner contre ses semblables en réglant les problèmes démographiques, géopolitiques, écologiques, notamment le manque d'eau, par la force et par la dictature. Le roi David disait déjà dans le psaume 127 « Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. » Que se passe-t-il ? Les hommes deviennent encore plus cruels que jusqu'à maintenant. L'Éternel permettra des guerres totales, peut-être même des conflits nucléaires. Par exemple, Jérémie 25, 29, 31 « C'est sur la ville qui m'appartient que je commence à faire venir le malheur. » Et vous en seriez exemptés ? Non, vous n'en serez pas exemptés, car je fais venir l'épée contre tous les habitants de la terre. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses, et puis tu leur diras, l'Éternel rugit de là-haut, de sa demeure sainte, il donne de la voix, il pousse des rugissements contre son pâturage. Il crie dans tous les habitants de la terre, tout comme ceux qui foulent le raisin. Le tumulte en parvient aux confins de la terre, car l'Éternel entre en procès avec les peuples, et il juge tous les humains, il livre les méchants au glaive, l'Éternel le déclare. En résumé, en Europe, on a vécu cette période de paix relative qui va bientôt s'achever. Ne me demandez pas quand, puisque seul le Père connaît quand. Mais Jérémie, dans ce contexte, reste actuel, plus que jamais. Voyons voir le troisième sceau. Le cavalier noir. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants. Elle disait « Un litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. Et voici que, après la guerre du cavalier roux, vient le temps de la famine avec le cavalier noir. Vous savez, dans l'histoire, toute guerre a engendré des famines. Parce que, au lieu de mettre l'accent sur la production de nourriture, on met l'accent sur la production d'armes. Il faut se défendre, hein ? C'est jamais. Mais accessoirement, le paysan voit sa terre se réduire comme peau de chagrin. Parce qu'on prend aussi les bonnes terres pour construire des immeubles, des maisons. Même en temps de guerre. Le bien-être supplante la nourriture de base, puisqu'on ne manque pas via la mondialisation. Mais essayez d'imaginer ceci. D'ailleurs, c'est plus que de l'imagination. Les ressources, par exemple, en pétrole, sont appelées à diminuer de moitié, environ, entre les années 2030 et 2050. À peu près. Comme nous sommes dépendants à 90% des transports via le pétrole, bateaux, avions, etc., camions, qu'est-ce qu'on fera sans ou avec la moitié? Alors que se passe-t-il? Les profits sont maximisés en créant des méga-usines de production de denrées et en engendrant des cultures orientées uniquement vers le rendement. Je ne sais pas si vous avez déjà vu peut-être des méga-fermes aux États-Unis notamment, des machins énormes, il n'y a pas de paysans dedans, il y a des gérants. Ils gèrent ce que la terre et les vaches donnent. Il n'y a plus de paysans. Alors, on cultive pour le rendement, ok. Mais il y a la faille, justement, des fameux transports ou une dévaluation de la monnaie. Et ça suffirait à affamer un continent entier. Par exemple, savez-vous qu'une ville comme Paris, sans aucun approvisionnement aujourd'hui, mercredi crève de faim. 2 jours. Lamentation 5:10. Notre peau est brûlante, littéralement noire, comme si on l'avait passée dans la fournaise, tant la faim nous consume. On s'arme pour la guerre, mais pas pour nourrir la population. Joël 4:10. De vos socs, forgez des épées et de vos faucilles, des lances. Alors, il y a beaucoup d'événements catastrophiques, des fléaux dévastateurs qui vont arriver. Et ce fameux cavalier noir sera autorisé à brandir la balance pour cette fameuse disette. Lorsque ces événements arriveront, chacun aura droit à ce qui reste. C'est-à-dire pas grand-chose. Et dans le texte, il est dit que le vin et l'huile sont épargnés par ces restrictions, mais qu'ils demeureront probablement hors de prix pour tout un chacun, si tant est qu'on puisse encore les produire. En résumé, actuellement, et ça c'est des chiffres qui font froid dans le dos, 8,3% de la population mondiale, soit 673 millions de personnes sont affamées, faim, et 11 personnes meurent chaque seconde. Donc imaginez un monde où la faim règne partout. Voyons le quatrième sceau, le cavalier verdâtre. Ça ne va pas en s'améliorant. Hein. Quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort. Il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir, sur le quart de la terre, de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Chouette programme. Un cheval de couleur verdâtre, c'est pas ragoûtant, mais quand on plonge dans le texte grec, verdâtre se dit chloros, le chlore. Et ça signifie en grec la pâleur ou la verdeur d'un visage d'un mourant. Donc c'est beaucoup plus parlant. D'ailleurs, un gaz a été utilisé à base de chlore, à Première Guerre mondiale, mais plus récemment par ce cher Bachar el-Assad en 2014 en Syrie. Donc c'est un gaz qui est mauvais pour les voies supérieures. Ça crée des œdèmes pulmonaires, qui sont mortels bien entendu. Donc celui-là, il n'est encore pas non plus inoffensif. Et dans l'histoire, vous vous souvenez, il y a au Moyen-Âge ce qu'on a appelé la grande peste noire. Ça a décimé le tiers de la population de l'Europe. Donc on est dans cette logique-là aussi. Et qui est aux commandes de cette stratégie? Et qui sait qu'il lui reste peu de temps? Et qui va se déchaîner comme jamais? Toujours le même. Alors que se passe-t-il? Dans l'Ancien Testament, les hommes étaient sans défense, étaient déchirés par les bêtes sauvages. Donc Lévitique 26-22, par exemple, « Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. » Les armes bactériologiques aussi. Vous savez que le Covid a fait quelques millions de morts. Mais imaginez un seul centimètre cube, hein, un centimètre cube, d'un de ces virus qu'on a eu la gloriole de développer, un seul peut tuer 20 millions de personnes. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Mais dans tout ça, il y a une lueur d'espoir qui viendra de l'Éternel. Lui qui est avec ses saints en permanence. Lui qui peut nous donner du courage. Matthieu 24, 22, vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en échapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps. En résumé, le quatrième sceau apporte son lot de malheur sur la terre, la mort est partout présente. Toutefois, les promesses de Dieu sont éternelles et seront tenues pour les élus. Bonne nouvelle! Alléluia! On va passer au cinquième sceau. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître, saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre, à leur demander compte de notre mort ?» Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche. Il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que ce soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Martyr, c'est un mot qui vient du grec, qui veut dire témoin de Dieu. Et l'étymologie de ce mot a été conservée dans le très parisien Montmartre, c'est-à-dire le mont des martyrs. Cela dit, je viens de lire un livre édifiant, Les chrétiens dans l'Empire romain, sous-titre Des persécutions à la conversion du 1er au 4e siècle. Je peux vous dire que les martyrs qui sont passés par là, ça n'a pas rigolé. Depuis Néron en 64, jusqu'à ce que Constantin arrive, il y a eu plusieurs siècles où les chrétiens ont été persécutés, mais ça va. Mais ils ont été torturés, ou ils ont été jetés aux bêtes, ou ils ont été tués par l'épée, par le feu, par n'importe quoi. Donc ces martyrs-là dont on parle dans l'Apocalypse, ça se rapporte à ça aussi. Et puis, il y a un de ces empereurs, vous savez, on parle de Marc Aurèle. Et puis Marc Aurèle, on pense qu'il est tout gentil. Ben non, parce qu'en 177 après Jésus-Christ, il a autorisé les massacres de Lyon. Et je peux vous assurer qu'en lisant le livre, il y a des frissons qui vous parcourent le dos, donc c'est à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais, voilà, on en est là. Les martyrs sont chrétiens, les martyrs sont aussi autre chose. mais pour ce qui nous intéresse, ils sont chrétiens. Alors, on peut voir aussi des crimes commis actuellement. Hein. Si on pense au Nigeria, avec ce qui se passe, les chrétiens qui sont un peu massacrés dans tous les coins, c'est pas tellement rigolo non plus. Mais il est dit que les martyrs ont reçu une tunique blanche et qu'ils attendent les autres martyrs. Donc ça veut dire que c'est pas fini. Hein. Dieu a une voix qui porte très fort. Et pour cela, j'ai choisi de vous montrer le psaume 29. Célébrez l'Éternel, vous les anges de Dieu. Célébrez l'Éternel en proclamant sa gloire et sa puissance. Oui, célébrez l'Éternel en proclamant la gloire dont il est digne. Et prosternez-vous devant l'Éternel dont la sainteté brille avec éclat. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, Dieu, dans sa gloire, fait gronder le tonnerre. La voix de l'Éternel domine le bruit des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit avec force. La voix de l'Éternel résonne majestueusement. La voix de l'Éternel brise les cèdres, patatras. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir tout le Liban comme les veaux et le Sirion comme des buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle fait tomber les feuilles des arbres de la forêt. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire à l'Éternel !» Au-dessus du déluge, l'Éternel siégeait sur son trône. L'Éternel siège en roi à tout jamais. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple en lui donnant la paix. En résumé, le cinquième psaume parle des saints persécutés dans leur foi. On a un chant qui dit « Je te donne tout, prends ma vie ». Mais si on était à la place de ces martyrs, par exemple devant les Romains, comment est-ce qu'on réagirait? Nous sommes des humains, on essaye de sauver notre vie malgré tout. D'ailleurs, il faut savoir que certains de ces chrétiens à l'époque ont tourné leur veste. On dit non, mais moi, j'adore l'empereur romain, les dieux romains. Ils sont quand même fait zigouiller, hein. Ça leur a pas porté chance. Mais enfin, on ne sait pas notre réaction. Passons au sixième saut. Oula, c'est pas mieux, hein. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième saut. Il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Il criait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister ?» Au cinquième son, on se dit, « Ouais, bon, la messe est dite. Tous ces malheurs qui se sont produits, ça suffit pour que le Christ revienne en gloire, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. » Il s'agira là, avec ce saut, d'une panique universelle face à des événements cataclysmiques impossibles à juguler. Alors l'Ancien et le Nouveau Testament annoncent ceci. Il y a deux aspects, donc l'aspect ici spirituel et l'aspect réel, si on peut dire comme ça. Les gens voudront se camoufler, peut-être aller dans un abri anti-atomique, pour échapper à cette colère, à cette grande colère, à ces grands bouleversements. Alors, avec les implications littérales de ces versets, je vous dis juste un ou deux. Le verset 12a, par exemple, les tremblements de terre, c'est un bouleversement social et politique des nations sous l'Antéchrist. Ou le verset 14a, le ciel roulé comme un livre, la manifestation de la malédiction céleste sur l'humanité. En résumé, d'énormes bouleversements vont arriver et je reste songeur. Face aux événements que je vois se produire ces temps, Ah, des inondations, on en voit tous les jours à la télé, là. Même, ils en remettent. Dérèglement climatique, nouvelle donne politique où le plus fort domine. Alors moi, je ne sais pas vous, mais sûrement vous avez un verset qui vous plaît bien, que vous avez dans le cœur depuis longtemps. Moi, j'en ai un qui me dit « Ne crains point, crois seulement ». Marc 5, 36. « Ne crains point, crois seulement ». Quand on reste attaché à la foi, à Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut se passer. On peut nous tuer. On peut nous tuer. On ne peut pas tuer notre salut. Le septième sceau. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. C'est là que ceux qui font des gags légèrement genrés disent « Ah, ben comme ça, on aura la paix avec les femmes !» Alors, on pourrait se dire, mais le sixième sceau, ok, il a été ouvert, les actions, c'est fait, bon, ça, c'est un an, tac, on peut mettre la coche, mais... Pas si vite. Le septième sceau, il est ouvert dans le chapitre 8. Puis le sixième sceau, il est ouvert dans le chapitre 6. Puis il y a le chapitre 7 au milieu. Ah, ça, s'il y a quelque chose qui ne joue pas, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a un petit temps de pause. Dieu, dans le chapitre 7, mais vous avez vu ça normalement, ceux qui ont étudié l'Apocalypse au mois de décembre, Dieu, il met en place ces catégories, c'est-à-dire des rachetés. Alors quand il parle de 144 000, ce n'est pas 144 000 littéral, mais c'est 144 000, c'est le peuple juif, premièrement, et après les nations. C'est-à-dire que l'écriture est respectée puisque le juif précède le grec et les autres, comme indiqué dans Romains 1, 16. Et deuxièmement, il ne va pas laisser se dérouler la suite des événements sans marquer ses élus de son sceau. À mettre en relation avec Ézéchiel 9, 4, 6. Ainsi, alors les damnés vont recevoir la marque de la bête et les élus vont recevoir la marque de Dieu. Comme vous l'avez déjà vous-même, vous avez la marque de Dieu sur vous. Alors pour l'heure, c'est bien sûr le calme avant un certain orage. L'ouverture du septième sceau met en place un silence assourdissant d'une demi-heure. En effet, dans le ciel, si vous avez remarqué, c'était une louange permanente. Tout à coup, paf ! Le silence ! Rien ! Et l'Ancien Testament a des références à ce sujet. Sophonie 1,7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Ou Zacharie 2,13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Alors on se dit, à vue humaine, comme ça, une demi-heure, pas grand-chose, hein. Une demi-heure. C'est comme quand on est dans un tribunal, qu'on est à la place du condamné, et puis on attend le verdict. Et moi, je vous dis que cette demi-heure-là, elle semblera une éternité pour ceux qui la vivront. Donc, je ne vous ai peut-être pas dit, mais je vous ai peut-être dit, je ne sais plus, les sept lettres aux églises, elles correspondent symboliquement aux périodes de l'histoire schématisées sur le tableau que j'ai préparé. Donc vous faites abstraction des dates, mais vous regardez là, comment les sept lettres correspondent aux sept sceaux. Donc en résumé, le silence dans l'attente du verdict pour l'humanité sera vécu d'une manière terrible et l'impuissance humaine soulignée par la toute-puissance de Dieu. Et Ishvil terminé. Alors j'ai évoqué brièvement ces histoires de sept sceaux. Hein. Normalement, on peut aller beaucoup plus profond. Mais les sept lettres, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes parlent de la même chose. Et avant la septième action de ces événements, chaque fois il se passe un intermède. Et à chaque fois, la septième action de ces événements introduit un cataclysme majeur. Ce qui est manifesté de la souveraineté divine, c'est ceci. L'exaucement des prières des martyrs, Apocalypse 8, 2, 6. Couronnement du roi, Apocalypse 11, 15, 18. Proclamation du châtiment de Babylone, Apocalypse 16, 18, 18, 2, 8 et 20, 24. Et de la justice de Dieu, Apocalypse 19, 1, 6. Donc la patience de Dieu, elle est mise à rude épreuve depuis le début du monde. Vous avez vu qu'il n'a pas ménagé ses efforts pour toujours que son peuple le reconnaisse, vienne à lui, etc. Puis toujours son peuple, d'abord Israël, puis ensuite nous aussi, on est des rebelles quand même. Alors c'est comme une marmite à vapeur. Tant que le contenant n'a pas atteint la bonne température, la vapeur ne sort pas. Mais tout à coup, la vapeur elle sort. Et Dieu, il a une espèce de vapeur qui va s'appeler la colère. Et là, ça va beaucoup moins rigoler. Donc à l'ouverture du septième sceau, le monde entier va expérimenter les terrifiants effets de la colère divine qui va livrer l'humanité déchue à Satan lui-même. La grande question, les saints, les chrétiens, est-ce qu'on sera encore sur terre quand tout cela arrivera? On peut se poser la question. Eh bien, moi, je fais partie des pré-tribulationnistes. C'est-à-dire qu'il y a une grande controverse. Il y en a qui pensent, on sera enlevé vers le milieu. Oui, on sera enlevé après la tribulation. Moi, je prétends qu'on sera enlevé avant, pour différentes raisons. D'abord, parce que ça me convient bien, hein. Ah oui, quand même. Mais il faut bien voir l'objectif de la tribulation. Daniel, il l'a dit dans 9.27, une 70e semaine d'année est encore à venir. Et toute la prophétie des 70 semaines dans Daniel, c'est-à-dire Daniel 9, 20 à 27, fait référence à la nation d'Israël. Il s'agira d'une période au cours de laquelle Dieu s'intéressera particulièrement à Israël. Cela doit donc être mis dans le cadre de la 70e semaine, celle de la tribulation. Cela n'implique pas nécessairement que l'Église ne sera plus présente, mais on peut se demander pourquoi elle le serait. Par ailleurs, le principal passage des Écritures faisant référence à l'enlèvement est 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Vous voyez là. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce serait incohérent que Dieu promette aux croyants qu'ils ne subiront pas la colère pour ensuite les laisser la subir. Voilà. Et enfin, il y a un autre petit verset. Dans Apocalypse 3.10, l'église de Philadelphie, il a dit « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. » Donc, comme je le disais tout à l'heure, N'oublions pas que nous portons la marque de Dieu. Qui, dans sa bonté, dans sa compassion, dans sa miséricorde, nous l'a donné gratuitement. Gratuitement. Et je terminerai par la parole de Dieu, qui ne vaut pas la mienne, qui est bien supérieure. Ce n'est pas moi qui suis devant vous. Maintenant, Dieu parle. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites, parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Vous vous rendez compte, même les arbres, ils vont pousser des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Alors, soyez bénis, mes sœurs, soyez bénis, mes frères, raffermis par cette parole puissante qui dit que nous serons tous ensemble dans son royaume éternel et éternellement. Amen.